religions du monde, Geneviève Delru.
Ces crimes de pédophilie dans l'Église, au fond, quand on y regarde de près, ils fonctionnent un peu comme l'inceste dans les familles. Il y a une figure d'autorité, qu'on appelle d'ailleurs le père, le prêtre. Il y a une figure silencieuse, la mère, Église, qui s'aveugle, qui ne veut pas savoir. Les frères et sœurs de l'Église, les catholiques, qui n'avons pas voulu savoir, pas voulu dire. Mais comme souvent dans les familles, il y a eu une sorte de réveil. C'est-à-dire que ce qu'on appelle dans l'Église le peuple a dit « ça suffit, il faut faire la vérité ». Cette pression, elle continue à exister, les associations y contribuent. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les choses avancent, mais il faut être honnête et dire aussi qu'il y a un certain nombre de responsables dans l'Église qui voudraient bien que ce moment passe et qu'on passe à autre chose.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'assemblée plénière de printemps de la conférence des évêques de France à Lourdes, qui devait s'achever vendredi, a été suivie de près par celles et ceux qui, comme Christine Pedotti, directrice de Témoignages chrétiens et auteure du livre « Qu'ont-il fait de Jésus » chez Albin Michel, se sont élevés contre la loi du silence qui a longtemps prévalu au sein de l'Église concernant les abus sexuels. À l'heure où nous enregistrons, nous ne disposons pas du vote des résolutions adoptées sur la dimension financière des réparations et les mesures de prévention, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il s'agissait davantage à Lourdes pour les évêques de se préparer à la réception fin septembre, début octobre du rapport de la CIAZ qui fera autorité. La CIAZ, c'est la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église dirigée par Jean-Marc Sauvé. Ce rapport, qui concerne 7 décennies, des années 50 à aujourd'hui, s'appuie sur le recueil de témoignages et l'accès aux archives, et il risque fort d'être un choc. Si Jean-Marc Sauvé parle aujourd'hui d'au moins 3000 victimes, il n'exclut pas que ce chiffre dépasse les 10 000 avec cette question: quel pourcentage a touché l'appel à témoignage? 25%, 10%, 5% ou moins? En tout cas, pour Véronique Margron, religieuse dominicaine, présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de l'Église de France, et qui, comme la CIAZ, est totalement engagée dans ce travail de vérité, ces chiffres donnent le vertige. Véronique Margron, interrogée mardi dernier par Guillaume Nodin dans l'émission Le Débat de RFI.
Le nombre est toujours vertigineux, quel qu'il soit, puisqu'il indique, sous ce que disait François de Vaud, il indique une trahison fondamentale, qui est la trahison des plus vulnérables, la trahison de l'Évangile, qui est là pour les protéger et les défendre. Il indique qu'une institution qui est là pour annoncer de la vie, en tout cas pour la chrétienne que je suis, a porté de la mort. Donc, quel que soit le nombre, ce nombre sera effroyable.
Sœur Véronique Margron, présidente de la COREF. Avec nous dans ce studio, la sociologue Céline Béraud, spécialiste du religieux, directrice d'études à l'EHESS et qui publie au Seuil « Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels ». Bonjour Céline Béraud.
Bonjour Geneviève Delru.
Alors, la religion en France, la pratique religieuse est largement en décroissance. C'est un des thèmes de votre livre. Avec ces affaires, est-ce que l'on peut dire que c'est le coup de grâce?
C'est difficile d'avoir un jugement aussi tranché pour une institution qui a quand même traversé plus d'une crise dans son histoire. Mais les scandales sexuels, ils éclatent en 2018-2019 et ils éclatent alors même que l'Église catholique est en voie de minorisation en France. Et parmi les indicateurs quantitatifs qu'on utilise pour mesurer cette déprise catholique, il y a bien sûr la proportion de personnes qui se déclarent catholiques et celles et ceux qui déclarent une pratique religieuse régulière, c'est-à-dire le fait d'aller au moins une fois à la messe par mois. En 2018, si on en croit l'enquête sur les valeurs des Européens, les personnes qui se déclaraient catholiques ne représentaient plus qu'un tiers des répondants et répondantes, contre 70% au début des années 80. Et quant aux pratiquants et pratiquantes régulières, leur proportion ne s'élève plus qu'à 7%. Donc, il faut bien voir que ces scandales viennent percuter une institution dont l'appartenance est déjà mise à l'épreuve. Et cette appartenance, elle va être encore davantage mise à l'épreuve au moment des scandales. Il y a eu un certain nombre de débaptisations, c'est-à-dire d'apostasie, de renonciation à la foi catholique qui ont été demandées. Alors, c'est peut-être marginal parce que ça concernait des gens qui étaient déjà aux frontières de l'Église, mais leur nombre a augmenté de manière tout à fait significative dans les diocèses qui recueillaient ces demandes. Et puis, il y a eu aussi des formes de grève de la messe. Lorsque moi j'ai enquêté pour ce livre, je me suis entretenue avec des prêtres. Je pense à un prêtre qui est dans une région où il y a pas mal de temples protestants. une forte présence protestante, et il y avait cette crainte que les personnes qui vont d'habitude à la messe aillent chez les protestants. Ouais. Voilà. Alors, il semble qu'un certain nombre l'ont fait. Ça n'a pas été un raz-de-marée, mais aujourd'hui, on voit une forme de... Vous savez, on s'interroge beaucoup sur les 30% de pratiquants qui ne sont pas retournés à la messe depuis la crise du Covid. Et c'est vrai que la crise du Covid est venue finalement percuter
l'institution,
déjà percutée par les scandales sexuels. Et puis, il y a une autre forme d'appartenance, de lien à l'Église catholique qui a aussi été affecté par les scandales, c'est le lien du don financier.
Hein, vous savez, denier du culte.
Le denier du culte, qui est donc une contribution annuelle et volontaire à l'Église catholique, qu'on verse à une paroisse. Alors, tous les pratiquants ne sont pas des contributeurs et contributrices. Il y a aussi des contributeurs et contributrices qui sont plus éloignés de l'Église, mais on voit très clairement, depuis 2017-2018, une tendance à la baisse, alors qui a été un peu effacée cette année, parce que des personnes qui ne sont pas allées à la messe cette année, et qui, à cause de la suspension du culte, ont probablement donné fait glisser des sommes destinées d'habitude aux quêtes de messe vers le denier. Donc ça a un petit peu, ça a renversé la tendance, mais cette tendance sur fond bien sûr de vieillissement et donc de décès de cette population donatrice.
Alors Céline Béraud, on va voir ensemble effectivement les transformations nécessaires et les transformations, de toute façon, j'allais dire presque obligées, que ces crises, ces différentes crises des abus sexuels dans l'Église vont engendrer, notamment la question du pouvoir du prêtre, du cléricalisme, de la place des laïcs, de la place des femmes, etc. Mais déjà avant, petite rétrospective quand même, en fait ça fait 20 ans que l'Église, je dirais, est embourbée là-dedans. À certains moments, elle a cru que, bon, finalement, ça allait passer, que finalement, cette question concernait davantage l'Église au Canada, en Australie,
aux États-Unis,
etc., avec, bon, les scandales que l'on sait dans les années 2000. Et puis, finalement, non. Avec l'affaire Préna, notamment, hein, ce prêtre à Lyon, qui est devenu l'affaire Barbarin, et puis aussi, bien sûr, la création d'associations comme la Parole libérée, eh bien, la parole, précisément, s'est libérée, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus grave que cela.
Oui, effectivement, les évêques probablement ont cru un peu vite avoir bien géré ces affaires de violences sexuelles on a un premier moment de publicisation de ces affaires au tournant des années 2000. C'est l'affaire Piquant que vous évoquiez tout à l'heure, avec un évêque qui est condamné, hein, ce qui était une première en la matière. Mais en fait, c'est vraiment qu'à partir de l'affaire Préna, donc on s'en souvient, c'est 2015-2016, hein, que notamment avec la mobilisation des associations de victimes, notamment de la Parole libérée, que là, le scandale va commencer à monter et on va changer d'échelle, c'est-à-dire que on l'a vu, je pense, que le moment paroxystique, c'était les premiers mois de 2019, hein, de janvier à mars. Il y a énormément de révélations. Il y a une publicisation sur ces révélations avec des travaux de... Alors, le rôle des associations de victimes, avec des travaux de journalistes, des enquêtes faites par des journalistes, et puis aussi des documentaires. Je pense au documentaire sur les religieuses abusées.
Hein, sur Arte.
Sur Arte, qui beaucoup marqué les catholiques, hein, qui a été beaucoup vu par les catholiques et beaucoup commenté. Le film de François Ozon aussi, qui a été aussi beaucoup vu par les catholiques et qui va donc provoquer une très grande émotion. Donc on change à la fois d'échelle, le nombre d'affaires augmente. On voit aussi que les violences sexuelles, c'est pas uniquement sur des enfants. Ces religieuses violées suscitent une très très grande émotion. Et on change aussi de cadrage, c'est-à-dire que parce que c'est pas nouveau ces affaires de violences sexuelles. Hein. Il y a toute une histoire à faire. Claude Langlois s'y est attelé.
De la Révolution à nos jours.
En remontant à la Révolution, on pourrait aller encore bien sûr au-delà. Mais là, mais si vous voulez, et on est encore au début des années 2000, on est dans le cas de figures qu'on juge isolées, de brebis galeuses. Et là, on se rend compte que il y aurait un effet systémique. Le pape François lui-même prononce ce terme-là. Il met en cause le cléricalisme dans sa lettre au peuple de Dieu d'août 2018. Et donc, vous voyez, à la fois changement d'échelle et changement de la façon de percevoir ces affaires. Et c'est ça qui suscite le scandale, c'est ça qui suscite aussi une mobilisation.
Et puis, Céline Béraud, il faut aussi ajouter à cela le mouvement MeToo.
Alors, le mouvement MeToo, bien, il est concomitant. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que ce mouvement donc, qui naît dans un autre secteur professionnel, hein, le milieu du cinéma, qui naît aux États-Unis et puis qui se diffuse grâce aux réseaux sociaux sur toute la planète, le catholicisme, il n'est pas imperméable à ce mouvement-là. Il y a même des religieuses qui, à Rome, se mobilisent en se saisissant justement du mouvement MeToo.
On est maltraité, etc.
Voilà.
Oui.
Alors, donc ça va, il est concomitant, ça va contribuer. Et en même temps, il y a aussi un risque, me semble-t-il, il y a un effet qui est un peu ambivalent, de relativisation. On peut entendre en interne, chez certains catholiques, par exemple chez certains évêques, l'idée que finalement, c'est pas pire ailleurs. Hein. D'où, par rapport à ce que disait Véronique Margron tout à l'heure, on sent qu'il y a un enjeu, une sorte de fébrilité autour du chiffrage, autour du nombre de victimes.
Oui, Véronique Margron d'ailleurs, qui dit haut et clair que c'est beaucoup plus grave dans l'Église.
Bien sûr.
Parce qu'il y a quand même la figure du prêtre. Dieu a quelque chose à voir là-dedans malgré tout. Hein. C'est, même si c'est toujours grave, c'est plus grave dans l'Église.
Alors déjà, il va falloir, je pense que la caisse va donner, notamment grâce à une enquête qui est réalisée par des collègues de l'INSERM qui travaille pour la CAS, va essayer de mesurer la prévalence de ces violences sexuelles dans l'Église par rapport à la prévalence de ces violences dans la population générale. Il y a une très grosse enquête qui est menée actuellement.
Et ça va être très intéressant.
Voilà.
Ça.
Et donc ça va permettre de, ça va permettre de le mesurer. Il n'empêche que, bien évidemment, il y a une sorte de contre-exemplarité qui est terrible pour l'Église catholique. Et Véronique Margron, qui a été une lanceuse d'alerte, hein, qui fait partie de ces femmes qui ont pris la parole et pris la plume, au début, dans les années 2018-2019, on a une très forte conscience. Et puis surtout, ça rejoint aussi et ça vient percuter un discours très très ferme sur les questions de sexualité. C'est-à-dire que il y a une sorte de double discours entre un discours qui était prôné à la fois pour les prêtres avec le respect du célibat et un discours pour les laïcs avec une sexualité qui doit s'exercer que dans le cadre du mariage hétérosexuel et ouvert à la procréation. Et là, cette espèce de double discours avec les violences sexuelles qui ont été révélées, c'est forcément ça percute complètement et ça disqualifie d'une certaine façon la parole de l'Église et des catholiques sur cette matière.
Sans oublier, Céline Béraud, la publication du livre Sodoma sur l'homosexualité au sein du Vatican.
Oui, il y a la publication du livre Sodoma qui a lieu début 2019, donc vraiment ce qui participe de l'éclatement du scandale avec ce double discours, hein, donc de prélats qui avaient un discours public parmi les plus homophobes et des pratiques homosexuelles. Caché, privé. Je pense aussi à la thèse de Jocelyn Tricou sur la masculinité dans le clergé et les questions aussi de sexualité qui montraient des choses assez, assez semblables.
Au début de votre livre, dans les premières pages, Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, Céline Béraud, donc aux éditions du Seuil, vous faites intervenir Notre-Dame, l'incendie de Notre-Dame, c'était il y a presque 2 ans. Qu'est-ce que symboliquement cet incendie a représenté ?
Mais cet incendie, il arrive vraiment au moment justement où le scandale a éclaté, hein, puisqu'il arrive en avril 2019. Hein, c'était il y a exactement pratiquement 2 ans. Et pour moi, il met justement un terme à ce moment paroxystique de révélation qui a commencé à la fin du mois de janvier. Et il a souvent été lu dans les médias, notamment comme une sorte d'image de ce catholicisme mis à l'épreuve, bousculé, ébranlé par les scandales sexuels.
Et même de purification, attendu à l'époque. De purification. Les conséquences. Le catholicisme français est à l'épreuve. En même temps, il peut aussi se renouveler, se réformer. C'est la thèse de votre livre.
Oui, c'est aussi la perspective qui est la mienne quand j'ai voulu développer une sociologie du scandale. Parce que dans une perspective sociologique, le scandale, c'est ce qui va révéler des rapports de force, qui va révéler un état des lieux, mais aussi qui porte en lui une capacité de transformation, qui demeure très largement indéterminée. On ne sait pas ce qui va se produire in fine, mais en tous les cas, il y a comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre là et dont se sont saisies toute une série de catholiques, beaucoup de femmes, Christine Pedotti.
Donc de témoignages chrétiens, voilà, et auteur de nombreux ouvrages.
Anne Soupa, Véronique Margron et Marie Jautiel.
Celle qui a annoncé qu'elle était lanceuse d'alerte dans les premières.
Qui a été une des pionnières, dès la fin des années 90, accompagné l'épiscopat dans les premières mesures qui ont été prises. Il y a comme ça des prises de parole. Et puis, donc ça c'est le monde de l'édition, mais et c'est comme ça que moi j'entre sur le terrain en 2019. Il y a aussi c'est, je vais observer dans une paroisse un groupe de parole sur ce thème-là, et des groupes comme ça, il y en a plusieurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce qui émerge comme type de parole, c'est un besoin de repenser les modalités d'exercice de l'autorité, repenser les rapports entre les prêtres et les laïcs, faire une place, mieux reconnaître les femmes au sein de l'Église catholique, et reformuler le discours sur la sexualité. C'est trois thèmes qui sont pas nouveaux, trois thèmes qui sont débattus et qui s'inscrivent dans une réception contrastée du Concile de Vatican II, qui avait été un petit peu mis sous le tapis, un petit peu, et qui tout à coup sont de nouveau travaillés. La question des ministères est de nouveau travaillée, et donc il y a un effet, c'est-à-dire comme c'est une forme de revitalisation aussi, en tous les cas, du débat intra-catholique, avec ses prises de parole, avec aussi des groupes qui avait été invisibilisé, très marginalisé, notamment au moment du mariage pour tous, où c'est plutôt un catholicisme conservateur, peu favorable aux réformes, qui était sur le devant de la scène et qui se donnait à voir. Donc, des groupes plus diverses, des figures qui font entendre la nécessité de réforme et de changement.
Que disent les prêtres que vous avez rencontrés ? Vous avez rencontré de jeunes prêtres. Que disent-ils ? Ils sont prêts à ce changement ? Ils le désirent ? Ils le souhaitent ?
Je pense qu'ils étaient cette émotion collective qui a saisi vraiment tous les catholiques, elle a aussi saisi les prêtres. Je crois que cette émotion, elle n'a pas épargné les prêtres. Alors ils sont bien évidemment eux aussi marqués par une grande pluralité. Il y a chez eux un discours assez critique des évêques, qui est quelque chose que moi j'avais pas vu dans des enquêtes précédentes.
Qu'est-ce qu'on leur reproche ?
Eh ben justement de ne pas avoir non seulement suggéré cette crise, mais peut-être aussi de ne pas être à la hauteur d'une tâche qui, il faut bien le dire, aujourd'hui est devenue immense, puisqu'il faut à la fois gérer un nombre de prêtres de plus en plus restreint, parce qu'il faut gérer aussi la pénurie financière. Hein, je veux dire, la plupart des diocèses sont aujourd'hui dans le rouge, hein, comme me disait un prêtre, et de pas justement d'avoir pendant toutes ces années peut-être pas penser le changement et d'avoir refusé de discuter d'un certain nombre de choses qui leur semblaient fondamentales.
Effectivement, hein, sur le manque de prêtres, mais également pour les évêques, vous soulignez qu'il y a un certain nombre de prêtres qui ne veulent pas devenir évêques aujourd'hui, qui ne veulent pas prendre cette responsabilité.
Oui, je pense que pour trouver un candidat prêtre, il faut probablement en interroger deux, voire trois ou quatre, hein, avant de trouver un candidat volontaire, parce que c'est effectivement devenu un métier très très difficile à exercer.
Je peux vous donner... risque aussi.
Oui, alors à risque aussi, avec la question d'une responsabilité pénale, hein, liée, oui, à la question des affaires, et puis d'une responsabilité morale aussi. Hein, c'est un peu l'affaire aussi Barbarin, c'est-à-dire que moi je dirais à la rigueur, quelle que soit la qualification pénale, de toute façon il y a une sorte de faute morale et probablement d'incompréhension de cet homme par rapport à la souffrance des victimes et à la nécessité de les entendre et de les reconnaître.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les victimes, précisément, c'est un peu leur victoire aujourd'hui ?
Oui, je pense qu'elles sont très inquiètes. Je pense qu'on en, oui, on en est très loin. J'ai, dans le cadre des rencontres de la CCBF auxquelles j'ai été invitée en
janvier. CCBF, c'est-à-dire c'est la conférence des baptisés.
La conférence catholique des baptisés de France. J'ai été invitée à intervenir dans la session de janvier. Il y avait avant plusieurs représentants et représentantes d'associations de victimes. Et je crois qu'il y a une très grande crainte chez ces associations que c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que on passe à autre chose, que les évêques passent à autre chose. Et donc, il y a une attente un peu fébrile des mesures qui vont être annoncées, à la fois des mesures financières, mais aussi des mesures mémorielles et des mesures de prévention, avec la crainte que, finalement, l'affaire soit réglée et qu'on passe à autre chose. Donc, je pense que pour l'instant, on est encore au milieu du guet. L'affaire n'est pas terminée, puisqu'il va y avoir le travail que Jean-Marc Sauvé va révéler, va donner ses conclusions à l'automne. Et puis, on va voir aussi ce que les évêques vont en faire.
C'est ça qui compte, en réalité, c'est ce travail de la CIAZ, avant tout.
Bah, pour les victimes, oui. Après, je pense que la question du changement, elle dépasse largement le travail de la CIAZ. C'est une question théologique, c'est une question ecclésiologique sur la question des rapports entre les laïcs et les prêtres, sur la question de la place des femmes. C'est pas, oui, Jean-Marc Sauvé qui va donner des réponses en la matière. Ça, c'est au débat intra-catholique de se déployer pour ouvrir des pistes.
Ça, c'est la réforme du pape François qui, effectivement, se heurte à un certain nombre d'oppositions, il faut quand même le dire.
Se heurte à un certain nombre d'oppositions, mais il y a aussi a aussi suscité dans le catholicisme français un espoir, justement, chez des catholiques plus réformistes, oui. Qui avaient l'impression, sous les deux précédents pontificats, d'être face à un mur d'immobilisme. Et donc, il a ouvert un très, très grand espoir. On le voit sur énormément de dossiers. Alors, peut-être un espoir, d'ailleurs, démesuré, puisque il apparaît peut-être davantage comme un rénovateur, comme un réformiste.
Et sur cette réforme de l'Église, sa réparation, en lien avec la réparation des victimes, on laisse la conclusion à François Devaux de La Parole Libérée.
L'enjeu de la réparation des victimes est certes capital sur un plan humain, sur un plan moral, sur un plan évangélique, enfin sur tout ce qu'on veut. Mais si l'enjeu est la réparation des victimes, l'enjeu est aussi la réparation de l'Église et la confiance qu'on pourra lui accorder à l'avenir. Si l'Église bâcle le travail de la réparation des victimes, il n'y aura pas de réparation possible de l'Église.
François Devaux de La Parole Libérée. Merci Céline Béraud d'avoir été notre invitée. Je rappelle le titre de votre livre, Le catholicisme français à l'épreuve des scandales sexuels, et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci.
Merci à vous.
Dans cette réparation des victimes et de l'Église qui vient d'être évoquée, il faut inclure les communautés nouvelles, un autre volet des abus sexuels au sein de l'Église. Céline Oyot, journaliste au quotidien La Croix, consacre un livre à ce sujet. Elle est notre invitée. Bonjour Céline Oyot.
Bonjour Geneviève.
La trahison des pères, c'est le titre de votre enquête très fouillée, publiée chez Bayard, sur le phénomène d'emprise et d'abus des fondateurs de communautés nouvelles. En effet, depuis une petite dizaine d'années, des révélations d'abus spirituels et sexuels, les deux étant liés, ont concerné la plupart des fondateurs de ces communautés nouvelles qui ont émergé à la marge de l'Église, j'allais dire, dans les années 70, donc après le Concile Vatican II. Alors, vous vous êtes lancé dans cette grande enquête, c'est donc une démarche journalistique, et d'ailleurs vous êtes spécialiste de la question des abus sexuels au quotidien La Croix, mais c'est aussi une démarche personnelle, et cela vous l'écrivez dans les premières pages de votre livre, car vous êtes une enfant de la génération Jean-Paul II. Vous êtes passée par ces communautés. Et cette question, vous l'êtes posée depuis quelques années, est-ce que nous avons été une génération trahie ? Céline Oyot.
Oui, c'est ça. Comme journaliste, d'abord, j'ai vu ces dernières années au service Religion de la Croix les fondateurs de communautés nouvelles qui avaient beaucoup marqué des générations de catholiques tomber les uns après les autres. On avait des révélations de leurs abus qui avaient été cachés pendant des années. Et donc, je voulais essayer de comprendre dans quel contexte et par quel mécanisme ils avaient pu avoir une aura telle qu'ils avaient pu transgresser, abuser en toute impunité, et parfois pendant des décennies, sans que ce soit connu. Et puis, c'est vrai qu'il y avait une dimension personnelle aussi, c'est que moi-même, je suis de la génération Jean-Paul II, comme on dit, j'avais 20 ans en 97 au JMJ de Paris. Et mon parcours de foi comme croyante a été marqué par plusieurs de ces communautés où j'ai pu faire des sessions, des retraites. Ma première retraite, c'était à 14 ans dans les foyers de charité en Bretagne.
À Tressin.
À Tressin, donc dont le prédicateur était le père Van der Borg. Et donc, je partageais la sidération, l'incompréhension, la colère, la tristesse de beaucoup de catholiques pour qui ces figures de fondateurs ont été essentiel pour qui beaucoup témoignent d'ailleurs qu'ils ont reçu du bien, beaucoup de bien de ces fondateurs. Certains se sont convertis à leur contact, d'autres ont trouvé leur vocation ou un réconfort dans une période compliquée de leur vie, dans une crise existentielle. Et en même temps, on voit que ces fondateurs ont fait aussi beaucoup de mal à des victimes. Donc il y avait cette espèce de paradoxe, de mystère qui me taraudait depuis plusieurs années et que j'ai essayé d'explorer en interviewant, en faisant appel à des experts de divers domaines parce qu'il me semblait que c'était un phénomène complexe. Donc j'ai voulu aller voir des historiens, des sociologues, mais aussi des psychiatres, psychanalystes, psychothérapeutes, des théologiens, des canonistes. Voilà tout ce champ d'expertise qui m'aidait à essayer de comprendre ce qui reste quand même incompréhensible.
Je reste encore avec vous, avec votre expérience personnelle, votre foi aussi, hein, Céline Oyot. Vous étiez une jeune fille pleine d'idéal, comme beaucoup de ces jeunes qui sont passés par ces communautés.
Oui, c'est y a peut-être un des ressorts de ces abus, c'est qu'ils ont exploité, il me semble, un certain idéalisme de toute une génération qui
voilà. De la jeunesse déjà.
Pardon.
De la jeunesse déjà. Quand on est jeune, on voilà, est plein d'idéal.
Quand on est jeune, on est plein d'idéal et c'est pas un mal, au contraire.
Tant mieux.
Après, c'est vrai que c'était une période aussi de l'Église, de la société, enfin dans les années 70, 80, 90, où il y a eu un retour d'une soif d'absolu, une quête spirituelle. Alors, ça a commencé dans les années 70, cette quête spirituelle, elle n'était pas seulement dans l'Église, il y avait aussi la quête en Inde, les spiritualités diverses, New Age, etc. Mais dans l'Église catholique, il y avait une soif très forte de renouveau, ce qu'on appelait l'attente d'une nouvelle Pentecôte, comme les papes Jean XXIII puis Paul VI avaient pu l'appeler. Et donc, il y avait toute cette génération qui attendait des personnalités, des modèles, des figures qui pouvaient leur montrer le chemin et donc répondre à leur quête de radicalité, de don de soi, un idéal de sainteté qui était très fort et qui était encouragé par Jean-Paul II. Donc, toute cette génération avait le sentiment, et moi-même, de participer à la grande aventure de la nouvelle évangélisation.
Oui, parce qu'effectivement, on est aussi après 68, donc l'esprit d'une vie communautaire. Oui, est très fort.
Il y a, hein, il y a aussi, voilà, c'est ça. Il y a à la fois la soif, comme j'ai dit, de sacré, mais il y a aussi cette soif communautaire, soif d'un idéal de vie fraternelle, presque familiale, auquel ces communautés semblent répondre peut-être plus directement que les paroisses qui, à ce moment-là, se vident ou alors s'engagent dans des luttes très politiques, très
les progressistes contre les tradis, c'est
voilà,
ça.
Il y a aussi ce contexte. Hein. Oui, il y a ce contexte effectivement un peu idéologique de l'après-Vatican II qui va être un des facteurs aussi de ces abus, enfin de ce contexte de fracture progressiste contre traditionnaliste et donc on cherche une autre voie, enfin avec la voie du renouveau de ces communautés pour s'engager dans l'Église.
Alors on va en citer, hein, ces communautés, on va les citer les plus connues, la communauté de Saint-Jean.
Oui, les frères de Saint-Jean.
Frères de Saint-Jean.
En fait, dans ces communautés, il y a à la fois des communautés plus classiques, plus traditionnelles, de type monastique presque, comme Saint-Jean, comme les sœurs de Bethléem. Et puis, il y a des communautés plus issues du renouveau charismatique, comme les Béatitudes, Fondatio, le Verbe de Vie, et tant d'autres, qui sont donc des communautés qui cherchent des formes de vie nouvelles, avec des couples, des célibataires, des prêtres, des laïcs, et donc qui explore cette nouvelle forme de vie, et c'est justement cette exploration va donner lieu à certaines dérives. Ces abus n'ont pas été forcément dès le début dans ces communautés. C'est-à-dire que ces fondateurs, ils ont eu, il me semble, une révélation authentique, enfin des intuitions lumineuses. Ils étaient sans doute plein de bonne volonté, de générosité, de spiritualité. Ils avaient beaucoup de charisme et de génie. Et ils ont su attirer autour d'eux de nombreux disciples au début. On dit que par exemple, pour les Béatitudes, les 10 premières années, il n'y avait pas d'abus. Enfin, cette communauté florissait, était dans un renouveau authentique.
Ça fonctionnait de façon saine au début.
Voilà. Après, il y a eu énormément, elles ont rencontré un grand succès. Ces fondateurs ont attiré énormément autour d'eux, ils ont suscité une très grande admiration.
C'est là où se pose la question.
Et voilà, et donc c'est un des facteurs de ces dérives, c'est que devant le succès, certains ont pu déraper, transgresser, abuser, exploiter en fait les autres parce qu'ils n'avaient plus en face d'eux de contre-pouvoir, ils n'avaient plus en face d'eux de limites, de gens qui leur posaient des limites. Ils étaient dans une certaine toute-puissance.
Alors, donc, nous parlions il y a quelques instants de communautés plus classiques, hein, comme la communauté de Saint-Jean, fondée par le père Marie-Dominique Philippe. Il y a également son frère, hein, vous avez consacré tout un dossier dans La Croix récemment, son frère, donc Thomas Philippe, cofondateur de l'Arche avec Jean Vanier. Marie-Dominique Philippe, effectivement a été vécu comme un prophète dans les années 70. Il enseigne à Fribourg, c'est cela ?
Oui, en fait, il enseigne à Fribourg dans les années 70, la philosophie. Et c'est une période où, justement, après le concile, il y a eu certaines dérives liturgiques dans certains endroits, dans certains lieux. Il y a eu une certaine, parfois, errance doctrinale, ou en tout cas, on remet à plat beaucoup de choses, si bien que beaucoup de catholiques sont déstabilisés et sont en quête de repères clairs et de figures fortes. Et justement, le père Marie-Dominique Philippe, lui, il a d'abord l'autorité des dominicains, puisqu'il est issu de l'ordre des prêcheurs. C'est un enseignant qui a beaucoup de charisme et beaucoup de talent dans sa prédication. Il enseigne à Fribourg, où beaucoup de jeunes et de Français vont se rendre pour suivre ses cours, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir là un garant de l'orthodoxie catholique qui peut justement résister face à la crise et en plus leur apporter leur ouvrir des horizons à la fois philosophique, théologique, mystique, parce qu'il se présente comme le maître des trois sagesses. Et donc, il va avoir un public considérable. On enregistre ses prédications, ses enseignements. Les fidèles ont des cassettes chez eux qu'ils écoutent religieusement. Et il va prêcher dans de nombreuses communautés nouvelles où il est invité. C'est le principal prédicateur à la communauté de Bethléem. Voilà, il a une influence, aura. Une aura très forte. Et son frère également, qui est aussi dominicain, le père Thomas Philippe, et qui, même s'il est plus discret dans le petit village de Trolibreuil, dans l'Oise, où il vit et où il a cofondé la communauté de l'Arche avec Jean Vanier à destination des personnes avec un handicap. Lui aussi a beaucoup d'aura et énormément de gens viennent faire la queue à la porte de son bureau pour être accompagnés spirituellement par lui.
Et Thomas Philippe, on s'en rendra compte lors de l'affaire Jean Vanier en 2020, en février 2020, quand on apprendra effectivement qu'il a lui aussi pratiqué des abus sexuels, eh bien le père Thomas a un ascendant énorme sur Jean Vanier.
Oui, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que ces fondateurs sont liés les uns aux autres. Au fond, tous ceux qui ont participé au renouveau de l'Église avaient une sensibilité ecclésiale, spirituelle assez voisine et se sentaient bien les uns ensemble. Et donc, ils s'invitaient à prêcher dans leur communauté, ils s'accompagnaient spirituellement, ils se confessaient parfois les uns les autres quand c'était des prêtres.
C'est un microcosme,
Oui, c'était un microcosme, effectivement. Et en particulier, les frères Philippe, par leur aura, par leur autorité intellectuelle et spirituelle, ont pu transmettre aussi leur spiritualité et aussi parfois leur dérive à d'autres fondateurs. Et donc, ce que les enquêtes menées par les communautés ont pu dégager, révéler ces dernières années, c'est effectivement que Jean Vanier, qui avait eu pour maître spirituel Thomas Philippe, avait également été conduit à des dérives lui-même dans cet enseignement.
C'est des dérives sexuelles qui s'appuient alors sur un véritable délire mystique.
C'est vrai qu'on est en train de découvrir l'ampleur de, oui. Cette sorte de gnose, enfin de doctrine cachée.
Alors les victimes vous racontent que effectivement Jean Vanier a finalement adopté la même, je ne sais pas si on peut dire stratégie, mais en tous les cas le même délire mystico-sexuel pour effectivement s'adonner à ses besoins sexuels sur des jeunes femmes lors d'accompagnement spirituel.
Oui, Jean Vanier, en fait, avait cette conviction héritée du père Thomas Philippe, d'une sorte de nouvelle compréhension de la miséricorde de Dieu, et qu'en fait, à certaines âmes contemplatives, privilégiées, qui ont une union des cœurs et des âmes très particulières, il est permis des grâces spéciales, et qu'en fait, cette union mystique peut s'incarner à travers des gestes qui, finalement, témoigneraient de l'amour de Dieu, de celui qui accompagne, pour celle qui accompagne. Et donc, ces gestes, pour eux, ce qui est étonnant, étaient des gestes de tendresse, là où, en fait, c'était des gestes clairement sexuels, puisqu'ils faisaient tout, sauf la pénétration, parce que là, ça aurait été de la sexualité. Mais même dans ces écarts-là, qui pouvaient avoir lieu pour certains frères qui abusaient eux aussi, au fond, la miséricorde était toujours là. Au fond, l'acte était pur tant que l'intention était pure. C'était une sorte de de doctrine, oui, cachée, qu'il transmettait et que à travers l'accompagnement spirituel et que Jean Vanier semble avoir pratiqué avec des femmes qui l'accompagnaient. Certaines ont été consentantes, d'autres non, puisque elles ont adressé leur plainte à l'Arche ces dernières années, notamment pour l'enquête de 2019, pour dire qu'en fait elles avaient été entraînées sous emprise dans des relations sexuelles justifiées par cette mystique érotico-spirituelle.
Combien de femmes pour Jean Vanier, combien de femmes ont-elles déclaré avoir été victimes au moins, de ces agissements?
Donc il y a eu au moins 6 femmes.
6 femmes, c'est ça, hein. C'est ça. Mais alors du côté quand même de la communauté Saint-Jean, il y a eu des viols.
Oui.
Il y a eu des viols, parce que là, tout à l'heure, vous disiez cette...
Oui, il y a des distinctions, en fait, distinctions, entre tous ces fondateurs. Tous ne sont pas, n'ont pas abusé de la même manière, tous n'ont pas abusé sexuellement. Certains ont enfreint la loi, d'autres la morale. Certes, il y a eu des viols, d'autres des agressions sexuelles. Donc, il faut quand même faire cette distinction. Mais c'est vrai que dans la communauté Saint-Jean, il y a eu clairement des agressions sexuelles et des viols des frères sur personnes adultes également, sur des mineurs, mais aussi sur des personnes adultes.
Des religieuses.
Mais en tout cas, ce que je veux juste préciser, c'est que le père Marie-Dominique Philippe, les abus qu'il a pu commettre étaient avec des personnes adultes et la plupart des religieuses de sa propre communauté dans le cadre de l'accompagnement spirituel, mais pas seulement.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Céline Oyot pour son livre « La trahison des pères, emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles » aux éditions Bayard. Céline Oyot, « La trahison des pères », votre livre, la couverture, le dessin de couverture exprime très bien ce mécanisme d'emprise. On voit une main avec des fils. Ce mécanisme d'emprise, il va apparaître au bout de combien d'années, par exemple, pour une personne qui a intégré une communauté? C'est quelque chose qui se fait très progressivement?
Oui, dans le récit, les récits de victimes, effectivement, il apparaît que ça, c'est très progressif parce que le mécanisme d'emprise que décrivent les psys que j'ai pu interroger pour cette enquête se fait par étapes et il commence par une étape de séduction, en fait, où le fondateur brillant, très fin, va comprendre en fait intimement les besoins de la personne qu'il a en face et y répondre et du coup créer un climat de confiance et de qui peut être renforcé par le partage d'un secret. Cette relation, c'est entre nous. Toi seul peux comprendre vraiment ce que je porte. Voilà. Et donc, il y a une sorte de lune de miel, entre guillemets, à laquelle va succéder une deuxième phase, décrite très bien par le docteur Isabelle Chartier-Sibène, qui est victimologue et qui
est psychiatre.
Elle est médecin. Elle est médecin, psychothérapeute et victimologue, présidente de l'association, c'est-à-dire qui accompagne des victimes. Donc à cette phase donc de séduction suit une phase de sorte de maltraitance en fait, ou des maltraitances qui peuvent être sous différentes formes, des manipulations mentales, des humiliations, des bannissements temporaires de la communauté, une sorte de violence, de harcèlement.
Ouais, vous parlez de fausse harmonie, de climat de fausse harmonie.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est extrêmement déstabilisant pour la victime qui va petit à petit perdre ses repères. Et ce mécanisme de mainmise, en fait, sur l'autre va conduire parfois à une sorte de dépersonnalisation où finalement le fondateur ou le maître spirituel va prendre l'ascendant sur cette personne, et en plus doté d'une autorité spirituelle, va prendre finalement la place de Dieu pour elle et connaître presque mieux la volonté de Dieu pour cette personne qu'elle-même. Et ça peut conduire à des dégâts considérables de destruction psychique, de dépression. Beaucoup de victimes ou d'anciens membres de communautés racontent qu'en fait, si ils sont sortis, c'est parce que en fait leur santé allait y passer. Certains ont été détruits et on dit que finalement pour se reconstruire, il faut presque autant d'années que d'années passées dans la communauté. Donc ça dit bien aussi les dégâts considérables de ces abus spirituels, quand bien même ils n'ont pas été jusqu'à l'abus sexuel. Et donc ce mécanisme d'emprise se termine entre guillemets, enfin en tout cas se manifeste aussi par le fait que quand ces personnes qui étaient sous emprise tout d'un coup ouvrent les yeux et veulent soit émettre des critiques, soit sortir de la communauté, elles sont diabolisées. Parce qu'en fait, elles échappent au contrôle de l'abuseur et elles sont traitées de Judas, n'ayant pas la foi. Enfin, toute la communauté les rejette.
Et il y a des suicides aussi. On en parle peu, mais il y a des suicides
déguisés, enfin au sens où on ne dit pas forcément que c'est, enfin c'est difficile de dire c'est lié à telle personne évidemment, mais dans toutes ces communautés, il y a eu des tragédies de personnes fragiles qui ont dévissé dans la communauté et qui n'étant pas encadrées, n'étant pas accompagnés et en plus entendant seulement un discours où leur souffrance n'était pas prise en compte, était seulement spiritualisée, ces personnes ont pu, hélas, aller jusqu'à là.
Oui, puis dans ces personnes, il y a effectivement les laïcs, hein, les familles, les couples dont vous parliez tout à l'heure, puis il y a aussi des religieuses. Donc, beaucoup plus difficile de se remettre de sortir de cet état et de recommencer une vie civile.
Oui, ce qui est très compliqué pour ces communautés, c'est qu'en fait, dans le processus d'emprise, il y a aussi, dans ce mécanisme de manipulation, il y a aussi la coupure avec l'extérieur et qu'en fait, ces personnes, petit à petit, étaient coupées de leurs relations familiales, de leurs relations amicales. Parfois, on leur interdit de parler entre eux, d'émettre la moindre critique parce que ce serait attenter à la communion spirituelle de la communauté, faire l'œuvre du diable que de critiquer le fondateur. Et donc, elles sont peu à peu enfermé dans ce système sectaire,
c'est ça, oui.
Dont il est très très difficile de sortir.
Alors, on a beaucoup évoqué la communauté Saint-Jean, mais effectivement, il y en a bien d'autres. Hein. On a évoqué il y a quelques instants aussi les béatitudes. Il y a Fondatio, hein. Il y a les points cœur. Alors, point cœur, peut-être un petit focus sur point cœur. Des jeunes qui partent dans des bidonvilles, apparemment, ça paraît effectivement extrêmement exaltant, dans des bidonvilles, par exemple, en Amérique latine. Et puis, en fait, on apprend plus tard que le fondateur, donc le père Thierry de Roussy, a pratiqué également des abus sexuels.
En fait, ce qui a été le plus fort et ce pourquoi il a été condamné, c'était effectivement un abus sexuel pratiqué sur son secrétaire particulier de l'époque, qui était prêtre. Mais tout ce qui a été révélé dans le procès, qui a duré plusieurs années, procès de l'Église, c'était une sorte d'abus spirituel où en fait ce fondateur abusait de la paternité spirituelle qu'il exerçait sur les membres de sa communauté, où il incarnait pour eux le visage du Christ, le visage du Père sur terre, et en fait il prenait une sorte d'ascendance sur les esprits et sur les âmes. Il mélangeait en fait fort interne, fort externe, c'est-à-dire qu'il accompagnait spirituellement des personnes dont il était aussi le supérieur hiérarchique.
Oui, il avait deux fonctions.
Il avait deux fonctions et ça mélangeait l'intime et le public. Et l'Église proscrit ce mélange des genres qui peut justement conduire à de nombreuses manipulations. Donc ça, c'était vraiment un des problèmes dans la communauté qu'il a fondée. Un autre problème qui concerne davantage les bénévoles qu'il envoyait à l'autre bout du monde, c'est que il y avait énormément de générosité. Ces jeunes vivait la gratuité, l'amitié gratuite, la compassion auprès des plus défavorisés, et c'est très beau. Simplement, ils n'étaient pas du tout accompagnés dans ces situations très rudes. Alors pour beaucoup, ça se passait très bien, mais il y a aussi, pour des jeunes plus fragiles, eu de très gros dégâts. Et là encore, il y avait de trop grande spiritualisation de cette mission et pas de fondement suffisamment solide dans l'accompagnement de ces jeunes.
Vous parlez de naïveté à plusieurs reprises dans votre enquête, dans votre livre, Céline Oyot. Vous avez été naïve aussi ?
C'est ce qui m'a frappée. Quand je dis naïveté, c'est une sorte effectivement de d'aveuglement ou de méconnaissance de la complexité
humaine.
Et quand je dis oui, parce que je trouve qu'il y a finalement cette génération idéaliste à laquelle j'ai appartenu, elle spiritualisait et spiritualise encore peut-être beaucoup trop la réalité. Et du coup, avec une méconnaissance des mécanismes psychiques, de ce qui se joue dans une relation, on a cru que un fondateur, parce que il avait beaucoup de vocation, parce qu'il faisait beaucoup de bien, il y avait que ça. Enfin, il y avait que ce bien. Or, que le bien derrière le bien ne pouvait pas se cacher de mal, ou que le bien ne pouvait pas coexister avec du mal. Et donc, cette naïveté a conduit à un certain aveuglement, qui a aussi était aussi un terreau propice à des abus. Quand on voyait arriver tous ces fondateurs avec des dizaines et des dizaines de vocations à Rome, les autorités romaines pouvaient leur donner un grand crédit et ne pas du tout vouloir écouter ou ne pas croire les plaintes, les critiques qui remontaient par ailleurs à leurs instances.
Oui, refuser de croire, mais ça rappelle évidemment, on se rappelle l'affaire Massiel, hein, le fondateur des Légionnaires du Christ, c'est Benoît XVI. Qui a fini par
voilà, ça a été le en fait finalement le premier à être vraiment sanctionné en fait à partir de Benoît XVI. Il y a vraiment eu un changement et au fond Benoît XVI a mis fin à l'omerta en commençant d'abord par sanctionner le père Massiel, ce fondateur mexicain des Légionnaires du Christ qui a commis énormément d'abus, mais aussi un autre fondateur italien. Et puis ça, de fil en aiguille, ça a ouvert la porte à de nombreuses révélations, à ce que les victimes soient davantage écoutées. Et le pape François, qui lui a succédé, a accéléré ce mouvement. Il y a eu des déclarations très fortes, des gestes, des initiatives très fortes, avec sa lettre au peuple de Dieu, dans laquelle il dénonce ce lien entre abus de pouvoir, abus de conscience et abus sexuels. Le sommet aussi sur les abus sexuels qu'il a convoqué en 2019. Et par tous ces gestes, l'Église a commencé à prendre en compte non seulement les abus sexuels, mais les abus spirituels qui deviennent le grand sujet dont on prend enfin conscience. Il y a tout un travail de prévention, de conscientisation qui est en train d'être fait, des anticorps qui sont en train d'être produits. Il y a toute une culture qui est en train d'émerger, qui peut-être supplanter cette culture de l'abus qui a prévalu pendant des décennies.
On terminera, Céline Oyot, par une phrase de l'Évangile. On juge l'arbre à ses fruits. D'ailleurs, c'est un des titres de chapitre de votre livre, La trahison des pères. Alors, que penser de ces communautés, de l'avenir de ces communautés nouvelles aujourd'hui? Quand on voit l'Arche, par exemple, qui est une œuvre magnifique, hein, tous ces jeunes qui s'occupent de ces personnes handicapées, cette intuition géniale de faire vivre des personnes handicapées avec des personnes qui les assistent. Que penser aujourd'hui de l'avenir de ces communautés? Est-ce que l'on doit dire, voilà, le fondateur a failli, il a fauté, auquel cas, ça jette un discrédit sur l'œuvre, ou bien au contraire, eh bien, effectivement, le fondateur a fauté, mais l'œuvre est belle?
Oui, il y a tout un travail de réforme qui doit être fait, tout un travail d'inventaire aussi, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de bien qui a été fait et qui continue à être fait dans ces communautés. Il y a aussi des abus, et il y a non seulement une culture de l'abus qui a été instaurée, mais il y a aussi des flux inconscients, ce que disait bien le psychanalyste Michel Béni, des flux inconscients qui sont encore actifs dans certaines de ces communautés, c'est-à-dire que le fondateur a pu diffuser ces déviances. Et donc aujourd'hui, il y a tout ce travail de purification, de réforme, de refondation de certaines communautés. Certains demandent même que certaines soient fermées. Poincœur, par exemple, n'est plus reconnu par l'Église catholique. C'est une ONG, mais qui ne dépend plus de l'Église. D'autres ont été refondées comme les Béatitudes et après, au terme d'un long parcours d'accompagnement. C'est encore un énorme chantier que l'Église a devant elle.
Je vous remercie, Céline Oyot. Je rappelle le titre de votre livre, La trahison des pères, et c'est publié chez Bayard. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amadou vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.
Tout à l'heure sur RFI, idée.